Merci. Eh bien, bonjour à tous. Encore une fois, bienvenue à chacun. Bienvenue à tous. C'est toujours une grâce, un privilège de pouvoir partager le message avec vous ce matin. Dimanche dernier, Paul, notre pasteur, nous a parlé de la vie de communauté des chrétiens à Jérusalem. Et il a insisté notamment sur la dimension de communion et de solidarité qui caractérisait vraiment ces premiers chrétiens. Vous vous souvenez, tous ceux qui croyaient mettaient tout en commun. Ils vendaient, ils partageaient, chaque jour, tous ensemble, au temple, avec joie, avec sincérité de cœur, simplicité de cœur. On a vu une communauté tournée vers l'autre, une communauté du cœur même, dans laquelle chacun était changé dans sa vision de l'autre par le Saint-Esprit. Une église qui grandissait chaque jour, une église naissante dans une parfaite unité de cœur. Alors, effusion de l'esprit, guérison, unité, oui, c'est vrai que l'église était, semble-t-il, sur un petit nuage. Et encore aujourd'hui, ça fait envie. Et pourtant, ce n'était pas non plus le conte de fées. Parce qu'il y avait des hauts et des bas dans cette église naissante. On se rappelle le mensonge d'Ananias et Saphira. On se rappelle les apôtres déjà convoqués par les autorités judiciaires, emprisonnés. Et puis, des disputes aussi au sujet de la distribution des repas. Avec, semble-t-il, des discriminations quand même, envers les juifs de langue grecque qui ne venaient pas de Jérusalem, qui venaient des régions extérieures à Israël. Il y avait donc des hauts et aussi des bas dans cette église naissante. Et c'est dans ce contexte de problèmes logistiques, de problèmes de vie communautaire très pratiques, qu'ont été nommés sept intendants, sept diacres. Et sur ces sept diacres, Luc choisit de parler d'un diacre en particulier. Ce diacre, c'est Étienne. Étienne est ce que l'on appelle un homme selon le cœur de Dieu. Étienne est choisi car on rend de lui un bon témoignage. Il est digne de confiance. Il est rempli de sagesse et de foi. Étienne était rempli de l'Esprit Saint. Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Et pourtant, Étienne est appelé au départ pour le service aux tables. Un homme rempli d'Esprit Saint est appelé non pas pour de grandes œuvres spirituelles, mais pour des problèmes logistiques, pour un service très terre à terre. Et je trouve que ça renverse déjà pas mal de préjugés que l'on peut avoir sur certains services dans l'Église. On n'est pas moins rempli de l'Esprit Saint lorsque l'on effectue certaines tâches ingrates, comme le lavage du sol des toilettes, que quand on chante sur l'estrade. Et vous savez, le monde est très fort. Il essaie même de trouver des parades pour lui valoriser les tâches les moins attirantes. Par exemple, de femme ou homme de ménage, on est passé à technicien de surface. Moi-même, j'ai bossé sur les chantiers l'été pour gagner un peu ma croûte. Et sur l'agence d'intérim, elle m'a envoyé ma fiche de paye et il y avait marqué « poste manutentionnaire ». Alors manutentionnaire, c'était un mot un peu élaboré pour dire qu'en réalité, je faisais bien le larbin sur le chantier. Je ramassais les chutes, je nettoyais les parpaings, je portais les parpaings. Mais quand même, manutentionnaire, ça le fait un peu mieux que larbin. Mais bonne nouvelle. Pour nous, dans l'Église, il n'y a pas besoin de donner artificiellement de l'éclat à certains services. Il n'y a pas besoin de valoriser artificiellement certaines tâches. Parce qu'on n'est pas moins revêtu de la puissance de Dieu derrière la débroussailleuse, au bricolage le samedi matin, que moi maintenant derrière la chair. Simplement que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Et dans le cas d'Étienne, il semble qu'après avoir démarré ce service pratique, très pratique dans la communauté, Étienne soit devenu un évangéliste influent, un puissant témoin du Christ. Et c'est vrai que puissance et prodige, ça brille beaucoup plus que technicien de distribution. Et pourtant, le Saint-Esprit est donné. Il agit autant dans un cas que dans l'autre. trouve que pour nous, c'est un encouragement à ne pas considérer certaines responsabilités comme petites, comme dépourvues de sens. Bien au contraire. L'exemple d'Étienne, pour nous, c'est un encouragement à considérer que chacun de nos actes en vue de servir le Seigneur a de la valeur et a du sens. Alors j'en profite pour rappeler que demain matin, l'équipe de ménage va se réunir comme tous les lundis. Ce sont des frères remplis du Saint-Esprit, amen, dont on peut rendre un témoignage reconnaissant. Et d'ailleurs, si vous avez lu le mail hebdo de l'Église cette semaine, vous êtes au courant que cette équipe recrute. Ils sont à la recherche de 4 équipiers supplémentaires pour aider. Donc si vous êtes remplis du Saint-Esprit et si vous êtes libre le lundi matin, eh ben, n'hésitez pas à rejoindre cette équipe. La suite du texte nous dit dans Actes 6, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie, d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, ils subordonnèrent des hommes et dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Car nous l'avons entendu dire que ce Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Étienne est un homme bon. Étienne est un homme selon le cœur de Dieu, un serviteur fidèle et entièrement dévoué aux tâches qui lui sont confiées par les apôtres. Il est rempli de l'Esprit Saint et n'hésite pas à prêcher l'Évangile et à confronter sa foi en Christ avec les personnes qui viennent lui demander raison de cette foi. Et cela ne va pas manquer de lui attirer certains ennuis. Parce que cette communauté qui grandit chaque jour, pour laquelle hommes et femmes mettent tout en commun, dont certains disciples font des miracles, eh bien ça fait du bruit. Ça se remarque. Et ça ne plaît pas à tout le monde. La Bible nous dit que la parole de Dieu se répandait toujours plus. Le nombre de disciples s'accroissait beaucoup à Jérusalem et même de nombreux prêtres se convertissaient à la foi. Et ces conversions, elles ne sont pas du goût de tous. Ça ne plaît pas notamment à ces juifs de la synagogue des affranchis. Mais au fond, pourquoi ? Pourquoi cette hostilité ? On lit qu'Étienne était d'une grande sagesse. C'est normal, il était rempli de l'esprit. Et que ses contestataires étaient incapables d'avoir le dernier mot. Avoir le dernier mot, vous serez d'accord avec moi ce matin que c'est bien une expression qui nous est familière. Avoir le dernier mot, c'est quand même avoir raison finalement. C'est clôturer la discussion avec un petit avantage psychologique sur l'autre. On aime tous avoir le dernier mot, c'est vrai. Mais chercher à tout prix à avoir le dernier mot, ça peut avoir des conséquences relationnelles, des conséquences émotionnelles. Et franchement, je ne crois pas que le jeu envahit la chandelle. Surtout quand ça concerne l'Église. Que d'énergie parfois dépensée. Que de temps passé juste pour avoir le dernier mot. Et ici, avec Étienne, ça ne loupe pas. Les opposants à Étienne n'arrivent pas à avoir le dernier mot. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont tricher. Ils vont être de mauvaise foi. Ils vont acheter de faux témoignages contre Étienne. Et cela va conduire Étienne devant le Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, c'est la plus haute autorité judiciaire de Jérusalem. C'est un conseil de 70 sages, des hommes triés sur le volet, réputés pour être instruits et intelligents. Et donc voilà Étienne assis au banc des accusés. Étienne, il est dans une situation délicate. On pourrait dire qu'il est en comparution immédiate. Il est sans la présence d'un avocat, ou du moins pas d'avocat parmi les hommes. Il faut s'imaginer la scène. Vous êtes interpellé, emmené de force, et vous vous retrouvez, à l'instant, devant un collège de 70 personnes qui vont examiner chacune de vos paroles. Et tout ça en présence d'une foule hostile, une foule qui met la pression, une foule qui est manipulée. Et là, vous allez être jugé, et vous pouvez être condamné, c'est votre vie qui est mise en jeu. On peut s'imaginer le Sanhédrin qui dit « Accusé Étienne, levez-vous ». Voici la liste des faits qui vous sont reprochés. Blasphème contre le temple et blasphème contre la loi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je trouve que les débats sont bien déséquilibrés. D'un côté, on a une personne seule, sans avocat pour sa défense, et de l'autre, on a un jury des 70 personnes et une foule agitée. Et la charge pénale, elle est également disproportionnée. C'est la peine de mort encourue pour diffamation. Aujourd'hui, si c'était le cas, je vais vous dire qu'il y en a un paquet qui passerait à la trappe. Mais pourquoi une telle situation ? Pourquoi une telle charge et de telles disproportions ? Pour répondre à cette question, il faut saisir les enjeux. Saisir les enjeux pour le Sanhédrin, pour les scribes, pour les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? De quoi ont-ils peur ? Eh bien, c'est une question de pouvoir, tout simplement. La question de qui aura le dernier mot, c'est une question de pouvoir. La bataille du dernier mot, c'est une bataille de pouvoir. Et le Sanhédrin, il voit son pouvoir menacé à deux niveaux. Premièrement, au niveau du temple. Parce que le temple, c'est le lieu où Dieu et son peuple se rencontrent. Le temple, eh bien, il est sous l'autorité du Sanhédrin à Jérusalem. Et deuxièmement, au sujet de la loi donnée à Moïse, c'est-à-dire la parole d'autorité de Dieu, dont le Sanhédrin est le garant. Alors pour le Sanhédrin, perdre la main sur le temple et perdre la main sur la loi, c'est perdre toute autorité sur le peuple. Et avant d'aller plus loin, je voudrais attirer notre attention ce matin sur le fait que ces deux niveaux sont exactement les motifs de procès qui peuvent être intentés contre nous par le monde aujourd'hui. Le lieu et la parole. Alors c'est vrai que on n'est pas persécuté, hein, au sens que notre intégrité physique en France, elle n'est pas menacée, comme beaucoup de pays. Mais quand même, nous sommes parfois la cible de rejet, la cible de moquerie, de mise à l'écart. Et même parfois, les mots, ça fait mal. Et comme Étienne, nous sommes attaqués au sujet du lieu. Ta foi, c'est à la maison. Ta foi, c'est privé. Combien de fois j'ai dû discuter, débriefer avec mes filles qui revenaient de l'école avec des discours sur la laïcité. Parce que le message qui est passé à l'école, c'est le suivant. Ta foi, c'est chez toi, c'est privé. Elle ne peut pas être publique. Mais c'est une dérive. C'est une dérive des intentions de la loi de 1905. 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Dans le texte de loi, le mot laïcité n'apparaît même pas. Mais au départ, c'est le catéchisme, l'enseignement religieux, qui n'est plus assuré par le corps enseignant, par les instituteurs et institutrices. C'est ça au départ, 1905. Et puis d'autres choses au sujet du patrimoine. Mais pour résumer, au départ, la laïcité, c'est la libre expression de toutes les confessions. Mais l'enseignement de la foi chrétienne, c'est plus à l'école, c'est à l'Église. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un vrai durcissement de la pensée laïque. Aucune expression, sauf celle de la non-expression. Plus de crèches dans les écoles, plus de crèches dans les mairies, plus de sapins de Noël. On rebaptise les vacances, vacances d'automne, vacances de printemps, vacances d'hiver. Par contre, on va quand même garder les jours fériés. Ça, on ne va pas y toucher. Je ne sais pas vous, mais moi, ma collègue, à chaque rentrée, elle arrive et la première chose qu'elle fait, merci, c'est qu'elle va pointer les jours fériés pour voir comment elle peut optimiser, faire le maximum de ponts possible. Et son préféré, c'est le jeudi de l'Ascension, parce que celui-là, il ne change jamais. Donc, c'est 4 jours assurés. Les jours fériés des fêtes chrétiennes, c'est bien, mais quand même, la foi, c'est chez toi. C'est entre les murs de ta maison. Donc ça, c'était pour les attaques sur le lieu. Et puis, comme Étienne, nous pouvons être mis sous pression aussi au sujet de la parole. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du relativisme. Toutes les paroles se valent, toutes les fois se valent. Et dans ce monde, ce n'est pas normal de dire, d'oser dire que la Bible est parole de Dieu, qu'il y a quand même une vérité, une seule. Moi, devant ce relativisme, mon argument, c'est de dire que ce n'est pas parce qu'on est inondé de fake news sur un sujet qu'il n'y a pas une vérité, une seule. Bref, on n'est pas toujours bien reçu lorsqu'on affirme que la Bible est sans erreur et qu'elle est la parole de Dieu. et encore moins lorsqu'on confesse que Jésus est le Fils de Dieu. Et alors parler de repentance, vous êtes d'accord avec moi, aujourd'hui, pour beaucoup, on ne veut plus de cette religion qui fait en apparence culpabiliser. Alors ce n'est pas de la persécution, mais vous en conviendrez, c'est quand même de l'hostilité. L'autre jour, avec Amélie, on regardait le spectacle d'une célèbre humoriste. On passait un bon moment, franchement un humour bien trouvé, et tous les sujets de société sont passés au crible de l'humour, et bientôt, bien sûr, on arrive à un moment aux chrétiens. Et je ne vais pas jouer le chrétien qui se complaît dans le rôle de victime, pas du tout, mais quand même, je ne me suis pas senti à l'aise quand la croix a été moquée. Et j'ai même été triste lorsque les 5000 spectateurs de la salle ont applaudi et ri en cœur quand la rédemption a été moquée, quand elle a été tournée en ridicule. Alors l'orgueil du monde, ce n'est pas un scoop, mais c'est bien une réalité. Le monde, lui aussi, il veut avoir le dernier mot. Alors peut-être que ce matin, nous aussi, nous avons des procès en cours. Peut-être que nous subissons les pressions de la foule. Peut-être que nous sommes pointés du doigt dans notre travail, dans nos familles. Peut-être que nous sommes moqués dans certains cercles d'amis. Peut-être qu'on ne nous laisse jamais le dernier mot quand on témoigne. Ben, si c'est le cas ce matin, le Seigneur va nous redonner du courage à travers le récit d'Étienne. Alors voilà, Étienne, devant le grand conseil. Reconnais-tu les faits qui te sont reprochés, lui demande le grand prêtre. La parole est donnée à la défense. Et là, dans le texte, Luc va nous restituer la plus longue plaidoirie de tout le livre des Actes. 60 versets, 1200 mots. Bon, ça restera toujours plus court que certaines prédications du CMLK, j'en conviens. Je m'inclus dedans. Et donc, on ne peut pas tout lire ce matin. Chacun pourra le faire au calme de son côté. Mais simplement, on va s'arrêter sur les charnières de cette argumentation. Car oui, c'est une vraie argumentation qu'Étienne propose, avec une logique soigneusement développée, et une conclusion qui est préparée avec minutie. Alors Étienne va prendre la parole et il va plaider par le Christ. Ouais, il y a de la stratégie dans la défense d'Étienne. Et son discours est apologétique. Apologétique, ça vient du grec apologia, qui désignait la défense d'un accusé devant le tribunal. Je trouve qu'on est bien dans le thème ce matin. L'apologétique, définition, c'est la défense argumentée de la foi face aux diverses critiques qui peuvent être soulevées contre elle. Pardon. Et là, encore une fois, je trouve que le texte nous interroge. Il nous interroge sur notre propre préparation. Est-ce que je suis préparé à rendre compte de ma foi ? Quand j'étais jeune chrétien, souvent des chrétiens plus âgés, quand je leur parlais de mes difficultés, quand j'avais des débats avec des détracteurs, à l'école ou un peu plus tard, aller dans des études plus scientifiques. Souvent, on me disait, ne perds pas de temps. Ne te lance pas dans des débats. C'est inutile, c'est du temps perdu. Ça ne portera pas de fruits. Laisse tomber. Je ne crois pas que ça soit du temps perdu. Je crois que parfois, il y a une confusion entre évangélisation et apologétique. Ce ne sont pas des ministères opposés, ce sont des ministères complémentaires. Même la parole dans 1 Pierre 3,15, elle nous encourage en ce sens. Pierre, l'apôtre, encourage les chrétiens à être prêts à rendre compte de l'espérance qui les porte devant tous ceux qui leur en demandent raison. Alors sommes-nous préparés à défendre notre espérance en Jésus-Christ, à rendre compte de notre foi ? Si vous cherchez, petite parenthèse, un petit bouquin facile à utiliser pour vous équiper, je vous conseille celui-ci, ce livre d'Alain Issu et de Lydia Yeager, paru en 2021, « Une foi, des arguments ». Tout est par thème, science, fiabilité de la parole, mal, souffrance, etc. Voilà, je crois que le Seigneur, par sa parole, nous encourage à rendre compte de notre foi. Et personnellement, il y a un apologète, comme beaucoup le savent, qui m'a beaucoup marqué, c'est notre regretté Tim Keller, Timothy Keller. Tim Keller, brièvement, c'est un pasteur anglais qui s'est installé à Manhattan dans les années 90, en plein cœur du monde de la finance. Vous savez, c'est un monde où le matérialisme est roi. Matérialisme, pas aimer posséder, c'est une vision matérialiste, c'est une vision sans Dieu. Alors, quand il a commencé son implantation, tout le monde lui souhaitait « Bon courage, Tim. Bon courage, tu vas semer dans un terreau bien compliqué. Il y avait plus simple pour démarrer une implantation. » Et pourtant, quelques années après, son église comptait 5000 personnes régulières au culte. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, c'est pas le fait que son église soit devenue une méga church que je veux souligner, mais simplement le fait que travailler son apologétique, comme Tim Keller l'a fait, il a écrit plein de bouquins, eh ben ça peut vraiment être utile pour devenir une église qui fait des disciples, qui vont faire des disciples. Et donc Étienne, il va se défendre stratégiquement au sujet du lieu et de la parole. Au sujet du lieu, c'est-à-dire le temple, et au sujet de la parole, c'est-à-dire la loi. Et il va plaider le Christ de deux manières. Il va faire un plaidoyer par les mots. Et ce plaidoyer par les mots, il attaque dès le verset 2. Étienne dit alors, « Chers frères et sœurs et pères de notre peuple, écoutez-moi. Le Dieu glorieux apparut jadis à notre ancêtre Abraham. Puis Dieu conclut son alliance avec Abraham et lui en donna pour signe la circoncision. » Voilà, après un seul verset, on peut déjà discerner une stratégie. Est-ce que vous voyez laquelle ? Voilà, j'ai entendu. C'est ça. La stratégie apologique d'Étienne, c'est tout d'abord de rappeler toute l'histoire de l'Alliance. Depuis Abraham jusqu'à Salomon, en passant par Joseph, Jacob, Moïse, David. Parce que cette histoire de l'Alliance, c'est un lieu commun. C'est un lieu commun entre lui et ses détracteurs. C'est quelque chose qui est incontestable. Ce sont des faits. D'ailleurs, les lieux communs, c'est ce que propose le parcours Alpha aux premières soirées, où chacun peut s'exprimer. Alors oui, un lieu commun, une histoire commune, mais une lecture très différente. Voici ce que dit Étienne. « Cependant, le Dieu Très-Haut n'habite pas dans des édifices construits par des mains humaines. » C'est ce que dit le prophète. « Mon trône, c'est le ciel. » Et mon marchepied, c'est la terre. Quelle est donc la maison que vous me bâtirez, dit le Seigneur ? Quelle demeure pour mon lieu de repos ? Toutes ces choses, n'est-ce pas moi qui les ai faites ? Le Dieu Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Et ici, Étienne, dans sa lecture, il va pointer vers le Christ. Et vous savez, je pense que les paroles du Seigneur sont déjà venues aux oreilles du Sanhédrin. Vous savez, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Étienne est en train de leur montrer que le vrai temple se trouve là où est Jésus. Car Jésus, c'est vraiment le lieu où se rencontrent Dieu et l'humanité. C'est le lieu de la réconciliation et du règne. Étienne, il amène doucement son auditoire devant le fait accompli que la destruction du temple, eh bien, c'est la crucifixion de Jésus. Et que sa reconstruction n'est autre que la résurrection du Seigneur. Il les amène aussi à une lecture différente concernant la loi et les prophètes. Et là, je trouve qu'Étienne frappe très fort. Ô homme obstiné qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées, vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste, et vous, maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils grinçaient des dents contre Étienne. Là, ce qu'expose Étienne, c'est que non seulement ceux qui se posent en défenseurs de la loi et des prophètes, ben, ce sont les descendants de ceux qui n'ont pas cessé de persécuter les prophètes et de désobéir à la loi. Mais en plus, il va pointer à nouveau vers le Christ annoncé et lui aussi persécuté, lui aussi trahi et assassiné. Étienne leur montre, là, que Christ fait partie de leur histoire. Comme vos pères ont rejeté Moïse, vous rejetez aujourd'hui le Christ dont Moïse était la préfiguration. Et par là même, vous résistez au Saint-Esprit. Et là, petite parenthèse, quel contraste à ce moment-là entre le visage rouge de colère du conseil et celui paisible d'Étienne. Alors je ne dis pas ça pour me satisfaire de la réaction contrariée, du Sanhédrin, mais simplement pour souligner que défendre sa foi, ça se fait dans la paix, ça ne se fait pas dans l'agressivité. Mais ce procès, il est vraiment spécial à plus d'un titre. Donc déjà, on a vu qu'il est initié par de faux témoignages. Il est disproportionné, il est déséquilibré. Mais en plus, avant même la fin de la défense d'Étienne, le verdict va déjà être rendu. On n'a jamais vu ça dans un procès. Un juge qui rend son verdict avant la fin de la plaidoirie de la défense. Mais c'est ce qui se passe ici. Mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel. Et il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Alors il s'écria, écoutez, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Car depuis le début de ce procès, en réalité, l'Esprit Saint est l'avocat de la défense. Christ est à la barre. Et Dieu est le seul juge. Et Étienne n'a jamais été seul. Alors les hommes peuvent faire tous les procès qu'ils veulent à Étienne, à ce témoin du Christ. À la fin, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et vous vous souvenez, son discours a commencé par « Notre Dieu apparu à Abraham ». Et ici, Étienne, ben c'est lui qui voit aussi Dieu lui apparaître. En fait, ce qui se passe ici, c'est que le Saint-Esprit confirme à Étienne que lui aussi fait partie de l'histoire du salut. Et c'est cette confirmation qui rend fou de rage le Sanhédrin. Et c'est là, malheureusement, qu'Étienne va devenir un martyr, comme nous le raconte Luc. À ces mots, on va le lire quand même, à ces mots, ils se mirent à vociférer, à se boucher les oreilles, et d'un même élan, ils se ruèrent sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» Puis il tomba à genoux et de toutes ses forces lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché !» Et après avoir dit ces mots, il expira. Je trouve que c'est toujours dur à lire ce passage. Il est violent, on assiste à un meurtre. On est choqué d'assister au meurtre d'Étienne. Mais ce qui m'interpelle aussi, c'est l'attitude d'Étienne. Face au déchaînement de violence, Étienne, il va vraiment incarner les paroles du Seigneur sur le mont des Oliviers. Priez pour vos ennemis. Et je crois qu'ici, Luc qui a écrit les Actes, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, Luc veut nous montrer quelque chose. Il veut nous montrer que Étienne incarne de tout son être le fait que Dieu a le dernier mot sur sa vie. Luc nous montre que le martyr d'Étienne, c'est aussi un plaidoyer par les actes. Et Étienne va jusqu'au bout de sa plaidoirie, jusqu'au bout de son témoignage. Et non seulement il ne montre aucune agressivité, mais en plus il va faire cet acte fou de prier pour ceux qui sont en train de le lapider. Et les mots d'Étienne, les actes d'Étienne, ils font directement écho à un autre martyr. Car on identifie bien ici les derniers mots du Seigneur agonisant à la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Père, reçois mon esprit. Et voici la lecture de l'histoire du salut qu'Étienne nous propose maintenant à tous ce matin. La résurrection du Seigneur, c'est le dernier mot du Père sur la mort. Les actes du Saint-Esprit, c'est le dernier mot du Seigneur sur Étienne. Étienne n'est pas un type de Christ, mais il est à l'image du Christ. Alors que nous, nos actes, ben malheureusement, ils ne montrent pas toujours que nous sommes en Christ. Étienne, lui, c'est l'exemple d'un témoin passionné qui sait que quoi qu'il advienne, Dieu aura toujours le dernier mot sur sa vie. Alors c'est une question qu'on peut se poser nous ce matin. Qui c'est qui a le dernier mot sur notre vie ? Autre petite parenthèse, Philippe Adams nous demandait au week-end de rentrée dans la première question du premier atelier, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qu'il fallait faire selon nous, ce qu'il fallait changer dans nos vies pour que nous nous sentions capables de faire des disciples. Et cette question, qui a le dernier mot sur notre vie, c'est peut-être la réponse à cette question qu'il faut changer ce matin pour se sentir capable de faire des disciples. Alors vous allez me dire que Étienne, il n'a pas réussi à faire changer le Sanhédrin. Que son témoignage par les actes et par les mots ben, il est resté finalement stérile. Eh bien, c'est peut-être vrai pour 69 sages du conseil, mais pas pour un. Parce qu'il y en a un qui était là, qui a tout vu. Il y a un jeune homme dans la trentaine d'années, qui a été touché. Cet homme, c'est Paul, c'est Saul, le futur apôtre Paul. Et le fait que Luc précise que les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul, eh bien, il faut le comprendre comme un passage de relais. C'est un passage de relais entre Étienne et Paul l'apôtre. Alors, enfin, et une autre question que soulève le martyr d'Étienne, et pour moi, ce sera la conclusion de ce message, cette dernière question, c'est la question du mal. Tout à l'heure, on parlait d'apologétique, de défense de la foi, avec raison. Et à ce sujet, je crois que la réflexion que j'entends le plus quand je partage ma foi au cabinet, dans mon travail, c'est comment il peut y avoir un Dieu bon, un Dieu d'amour, avec tout ce mal et toute cette souffrance dans le monde. Et c'est vrai. C'est la question du mal, elle est sur nos cœurs à chaque épreuve que nous traversons, à chaque séparation, à chaque deuil, à chaque déchirement que nous traversons. C'est une réalité. Et malheureusement, je n'ai pas de réponse toute faite ce matin. Je n'ai pas de verset clé en main à proposer. Je n'ai pas de théodicée à bon marché à vous proposer. Je n'ai pas de raccourci facile pour tenter de justifier l'existence du mal en même temps que Dieu est souverain. Simplement, ce récit de la parole de Dieu, ce récit du martyr d'Étienne. Et oui, même si le meurtre d'Étienne nous apparaît à nouveau comme l'expression du mal, eh bien paradoxalement, il peut nous remplir d'espoir. Parce que la mort d'Étienne, elle va avoir des conséquences sur les disciples. Parce que suite à ça, tous les disciples vont être persécutés et vont quitter Jérusalem. Il va y avoir un éclatement géographique. Et cet éclatement, il va constituer le point de départ d'une bonne nouvelle qui se répand tout autour de Jérusalem. L'Église naissante va être dispersée et les graines de l'Évangile vont être semées en plusieurs endroits. Et la conséquence de ça, eh bien, c'est des disciples qui vont faire encore des disciples. La conséquence de ça, c'est nous ce matin réunis pour louer le Seigneur. La conséquence de ça, c'est la vie qui va jaillir en abondance à nouveau en différents endroits. Et je finirai avec ces mots du prophète Ésaïe. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Amen. Étienne, et par sa vie de disciple comme le grain de blé qui tombe en terre, et qui porte un germe, et qui va porter beaucoup de fruits. Dieu a vraiment toujours le dernier mot. C'est notre espérance ce matin. Et pour finir, je vous propose qu'on prenne un temps de silence, un temps de méditation, de recueillement personnel, peut-être pour méditer encore un peu sur ce passage. Ce passage à la fois tragique et à la fois porteur d'une pleine espérance dans le Seigneur. Et peut-être examiner les domaines de nos cœurs sur lesquels on a encore du mal à donner le mot final à Christ. Et peut-être décider aujourd'hui de le faire. Décider de donner aujourd'hui le mot final au Seigneur sur toute ma vie. Alors prenons un instant. Seigneur, nous sommes émus et touchés par ta parole ce matin. Seigneur, ta parole, elle trouve tellement d'écho dans nos cœurs, dans nos existences. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui ont été moqués peut-être, qui ont été mis à l'écart, sur qui on a mis la pression, qui ont été pressés de se taire. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont peut-être découragés, Seigneur, je te prie pour que tu les relèves par ta parole maintenant et par ce message d'espérance, Seigneur. Que rien ne peut nous séparer de toi, Jésus. Seigneur, je te prie pour que tu inscrives à nouveau dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit, que nous ne sommes jamais seuls, que tu es avec nous, Seigneur, et que même si nous semons dans les larmes, nous moissonnerons avec joie. Alors Seigneur, merci pour ton dernier mot sur nos vies, à chacun. Sois béni, sois glorifié, sois élevé dans nos cœurs ce matin. Amen. Amen.